Chapitre 7. L'aube avait dissipé les ténèbres, et déjà le char étincelant du soleil commençait à illuminer la face de la terre, quand je vis arriver un homme de la bande, ce que je reconnus facilement à la manière dont on s'aborda. Le nouveau venu s'assit à l'entrée de la caverne, et après avoir repris haleine, communiqua les détails suivants à ses camarades. « Tout va bien en ce qui concerne Milon, ce bourgeois d'Hypate que nous avons dernièrement dévalisé. Vous savez, brave compagnon, que je restais en arrière au moment où vous regagniez votre forteresse, après avoir fait chez lui maison nette. Je me mêlais donc aux groupes agités qui se formaient sur les lieux, faisant tantôt semblant de m'apitoyer, tantôt de m'indigner de l'aventure. Je voulais savoir comment on informerait sur votre exploit et quelle direction prendraient les recherches, le tout afin de vous faire mon rapport, ainsi que vous me l'aviez prescrit. Des indices nombreux et qui avaient tous les caractères de l'évidence avaient fait réunir les soupçons sur un certain Lucius, et c'était lui qu'on désignait universellement comme ayant dirigé le coup. Cet individu qui, peu de jours avant, s'était donné à Milon pour homme de bien, à l'aide de fausses lettres de recommandation, avait, disait-on, réussi à s'introduire fort avant dans ses bonnes grâces. On l'avait traité en hôte, admis dans l'intimité de la famille, et retenu depuis plusieurs jours. Ce dont le gaillard avait profité pour jouer l'amoureux près de la servante et la séduire, examiner de près les serrures et s'assurer de la position des cachettes à argent du maître du logis. On citait une particularité significative, la nuit même du vol où Lucius avait décampé, et on l'avait pas revu, et de plus, et sans doute pour assurer sa retraite et se mettre plutôt hors de la portée des poursuites, il avait emmené un cheval blanc, sa monture ordinaire. On s'était bien saisi de son domestique, qu'il avait laissé au logis, et dans l'espoir de quelques révélations, les magistrats l'avaient fait jeter dans les prisons de la ville. Mais le lendemain, on avait appliqué à la question et torturé cet homme presque jusqu'à la mort, sans tirer de lui aucun aveu. Plusieurs émissaires avaient été dépêchés au pays de Lucius, pour rechercher le coupable et le livrer à la justice. Pendant ce récit, je hémissais au fond de mon âme en comparant ma condition antérieure à mon abjection présente. Le brillant Lucius d'autrefois au pauvre Monet d'aujourd'hui. Je m'avisais alors pour la première fois de tout ce qu'il y a de justesse dans cette allégorie des vieux moralistes, la fortune privée Dieu. Ne la voit-on pas toujours en effet prodiguer ses biens aux méchants et aux indignes? La raison est-elle jamais consultée dans ses choix? Et qui vise-t-elle de préférence? Ceux-là précisément dont, clairvoyante, elle se tiendrait le plus loin. Par elle, enfin, quelle diversité, ou plutôt quelle aberration dans les jugements des hommes. Elle environne le pervers d'une auréole de probité et met l'innocence même à la merci des bouches les plus coupables. Moi, dont, par un jeu cruel, elle avait fait une bête, un quadrupède, qu'elle avait traité de façon à me rendre un objet de pitié pour les cœurs les plus endurcis, je me voyais pour comble accusé de vol au préjudice d'un autre que je chérissais. Que dis-je, de pire encore, de parricide. Je ne pouvais me défendre, ni même ouvrir la bouche pour dire non. Il ne me fut pas possible, cependant, d'acquiescer tout à fait par mon silence à cette accusation horrible. Et dans l'excès de mon irritation, je tâchais de crier « Mais non, je n'ai rien fait !» Je réussis bien à braire le premier mot à plusieurs reprises, mais il n'y eut pas moyen, quoi que je fisse, d'articuler le second. J'en restais donc à cette première syllabe bien et durement vociférée. Non, non! Le tout avec une ouverture désespérée de mâchoire et un écartement non moins démesuré de mes lèvres pendantes. Mais que sert de gémir en particulier sur chacune de mes disgrâces, quand la fortune avait bien pu me ravaler à la condition et m'associer au travail de l'animal qui me servait de monture. Cependant, au milieu de l'agitation de mon esprit, une pensée prenait toujours le dessus. Le décret des voleurs qui m'immolaient aux mânes de la jeune fille me revenait en mémoire et je regardais piteusement au-dessous de moi comme si mon pauvre ventre subissait déjà cette fatale grossesse. Cependant, le bandit qui venait de débiter tant de calomnies sur mon compte tira 1000 écus d'or cachés dans la doublure de ses habits. C'était le produit de contributions levées sur différents voyageurs et que sa probité, disait-il, lui faisait un devoir de verser à l'épargne commune. Il s'enquit ensuite avec intérêt de la santé de ses camarades. Apprenant qu'un certain nombre d'entre eux, les plus braves, avaient diversement succombé, tous en genre de cœur, il ouvrit l'avis de laisser momentanément la paix au grand chemin et, toute expédition ajournée, de ne s'occuper qu'à remplir les vides par voie d'enrôlement ou de contrainte afin de remettre la belliqueuse compagnie sur son ancien pied. « Il faut, disait-il, agir sur les récalcitrants par la terreur et sur les hommes de bonne volonté par l'appât des récompenses. Pour combien de gens, esclaves ou pauvres hères, notre condition n'est-elle pas préférable au régime que leur impose le despotisme ou le besoin ? Pour ma part, j'ai déjà fait une recrue. C'est un grand jeune homme taillé en force et qui sait jouer des mains. Je lui ai remontré et j'ai fini par l'en convaincre qu'il se rouillait dans l'oisiveté, que, jouissant d'une si belle santé, il devait s'empresser d'en tirer parti par quelque honnête occupation, qu'avec un bras aussi vigoureux, on ne tend pas la main pour recevoir l'aumône, mais qu'on s'en sert activement pour amasser les trésors. Une approbation unanime accueillit ces paroles. On décide l'admission préalable d'un candidat qui paraît si méritant et subsidiairement l'adjonction de nouvelles recrues pour compléter la troupe. Mon homme sort un moment et revient, introduisant un jeune gaillard aux proportions vraiment colossales et avec lequel je crois qu'aucun homme de notre temps ne pourrait entrer en comparaison. Car, sans parler du développement extraordinaire de ses muscles, il passait les assistants de toute la tête. Et cependant, un poil follet commençait à peine à se dessiner sur sa face. Il n'était qu'à demi vêtu de haillons chamarrés de pièces et de morceaux. Et le tout assez mal cousu semblait tenir à l'étroit osseuse charpente de sa vaste poitrine et les massifs contours de ses flancs. Le candidat étant introduit dans cet équipage, « Salut, dit-il, ô vous, compagnons du vaillant dieu de la guerre, et à dater de ce jour mes fidèles camarades. Recevez dans vos rangs un homme de courage et d'action, plus empressé à prendre sa part des coups que des dépouilles, un homme à qui la présence de la mort, si redoutée des autres, ne fait que redonner du cœur. N'allez pas me prendre pour un mendiant, pour un homme de rien, ni juger ce que je vaux par les guenilles que je porte. Tel que vous me voyez, j'ai commandé une troupe des plus intrépides et mis la Macédoine entière à feu et à sang. En un mot, je suis le fameux Hébus de Thrace, dont le nom seul fait frémir les provinces. Mon père est l'illustre Théron qui m'a nourri de sang humain, et élevé dans les rangs de sa troupe. Il m'a légué sa vaillance, et l'héritage n'a pas dépéri entre mes mains. Mais cette noble association d'antiques prouesses, et avec elle tout ce que je possédais de fortune, tout cela a péri dans un moment. Dans une attaque nocturne contre un intendant des finances impériales, depuis tombé en disgrâce, mais il est bon de reprendre les choses d'un peu plus haut. Il y avait à la cour de César un personnage éminent par ses services et dont l'empereur faisait personnellement le plus grand cas. Il eut des envieux et leurs manœuvres parvinrent à élever contre lui une accusation qui aboutit à l'exil. Son épouse Plotine, femme d'un mérite rare, d'une fidélité exemplaire, et dont l'heureuse fécondité avait grossi sa famille d'un dixième gage de leur union, prit l'héroïque résolution de renoncer aux fastueuses délices de la vie romaine, poursuivre un époux banni et s'associer à son infortune. Elle rasa ses cheveux, prit un habit d'homme, rassembla tout ce qu'elle possédait d'argent monnayé et le renferma avec ses plus précieux bijoux dans sa ceinture. On la voyait à la tête de l'escorte, intrépide au milieu des armes, partager tous les périls de son mari et supporter, pour l'amour de lui, les veilles et les fatigues avec une force et une constance au-dessus de son sexe. Enfin, après avoir surmonté les difficultés sans nombre d'un voyage par terre et les terreurs d'une traversée maritime, ils se dirigeaient sur l'île de Zacynthe, que le fatal décret leur avait assigné pour résidence temporaire. Ils touchaient à Axium au moment où notre troupe, qui alors exploitait la Macédoine, battait le pays dans les environs. La nuit était fort avancée, et l'équipage, pour ne pas coucher à bord, s'était établi dans une petite auberge sur le rivage, à proximité d'un navire. Nous profitâmes de l'occasion pour fondre sur eux, et après avoir fait main basse sur ce qu'ils possédaient, nous disparûmes non sans avoir couru nous-mêmes un grand danger, car la dame, au premier bruit qu'elle entendit à la porte, se mit à courir dans sa chambre, s'efforçant par des cris répétés de donner l'alarme. Soldats et domestiques, elle appelait chacun par son nom et réclamait en même temps le secours de tout le voisinage. Par bonheur, chacun resta blotti dans son coin et craignant pour sa peau. Autrement, nous n'eussions pas effectué impunément notre retraite. Cependant, cette admirable, car il faut dire la vérité, cette incomparable épouse, profitant de l'intérêt excité par sa noble conduite, obtint de l'empereur, par ses sollicitations, que son mari serait rappelé et que justice serait faite de notre agression. César, un beau jour, voulut qu'il n'existât plus de bande du brigand Emus, et la bande fut anéantie. Un grand prince n'a qu'à vouloir. Cernée par une force supérieure, ma troupe fut accablée et taillée en pièces. Seul, j'échappais au gouffre de l'Erebe, et voici par quel moyen. Je m'affublais d'une robe de femme à grand ramage à prix flottant, et coiffée d'un chapeau d'étoffe, les pieds passés dans des mules blanches et fines, comme en portent les femmes, je me juchais sur un âne qui portait des gerbes d'orge, et grâce à mon accoutrement féminin, je passais sans encombre au beau milieu des ennemis. On me prit pour la femme de quelque ânier, et les rangs s'ouvrirent pour me faire place. Vous saurez que mes joues, alors imberbes, conservaient encore l'éclat et le poli du teint d'un enfant. Malgré cet échec, on ne dira pas que j'ai dérogé à la gloire de ma famille ou manquer à ma propre réputation. Bien que sous le couteau de l'ennemi, pour ainsi dire, et peu rassuré par un tel voisinage, j'ai su, à la faveur de mon déguisement, exploiter maintes fermes et me ramasser une escarcelle de voyage, comme vous le voyez, assez rondelette. Et déboutonnant alors ses guenilles, il fait briller à leurs yeux une somme de 2000 pièces d'or. « Voici, dit-il, ma bienvenue, ou si vous aimez mieux, ma dot. Je vous en fais hommage, et si vous me voulez pour chef, je m'offre à vous le bon cœur. Laissez-moi faire, et je ne serai pas longtemps à changer en or chaque pièce de ce logis. » On ne fut pas longtemps à les lire, un suffrage unanime lui décerna le commandement. On apporta des habits un peu plus propres, dont on l'invita à se revêtir. Débarrassé de sa souquenille qui cachait tant de richesses, le nouveau chef en costume donne à tous l'accolade et, prenant place sur un lit plus élevé que le reste, inaugure son installation par un festin largement arrosé. On causa beaucoup de la tentative d'évasion de la jeune fille, et le chef apprit quel monstrueux supplice nous était réservé. Il demanda alors en quel lieu on gardait la prisonnière et s'y fit conduire. Et quand il l'eut vue chargée de chaînes, sa figure prit une expression marquée de mécontentement. « Je ne veux pas, dit-il à son retour, m'interposer brutalement et à l'étourdi pour empêcher l'exécution de votre décret. Cependant, ma conscience me reprocherait de ne pas vous faire entendre ce que je crois être une vérité utile. Avant tout, soyez persuadé que ma sollicitude seule pour vos intérêts me fait ouvrir la bouche. Vous serez d'ailleurs les maîtres de revenir plus tard à votre âne, mais moi, je pense que des voleurs qui savent leur métier songent au profit avant tout, même avant la vengeance. Il en coûte souvent de s'y livrer. Quand vous aurez donné à cette jeune fille un âne pour tombeau, vous aurez satisfait votre haine en pure perte. Mon avis est donc qu'il faut mener notre prisonnière à quelque ville et l'y vendre bel et bien. Fille à cet âge et de bonne défaite. J'ai moi-même parmi les agents de ce négoce telle vieille connaissance qui, si je ne me trompe, achèterait à très haut prix pour la louer aux amateurs une poulette de si bonne couvée. Une fois mise en cage, il faudra bien qu'elle renonce à prendre son vol de nouveau. Et dans le métier qu'elle fera, votre juste colère trouvera satisfaction. Voilà, suivant ma manière de voir, le parti le plus utile, mais à vous le droit de juger dans vos affaires et de disposer de ce qui vous appartient. C'est ainsi qu'en se constituant l'avocat fiscal des voleurs, ce digne homme plaidait notre cause et sauvait du même coup fille et baudet. Longue fut la délibération, et moi, je languissais et mourais à petit feu, attendant l'issue du débat. Enfin, le conseil se range à l'avis du nouveau venu. Sur le champ, on débarrasse la captive de ses liens. Mais celle-ci, au premier coup d'œil jeté sur le jeune chef, et à la simple mention d'agents et de lieux de prostitution, se laissa aller aux plus vives démonstrations d'allégresse. Et moi, m'en tirer un texte de l'accusation contre son sexe en général. Mais quoi ? Une jeune fille, naguère inconsolable de la perte d'un chaste amour, d'un hymen légitime, montrait ce scandaleux transport au seul nom du vice et de ses immondes repères. et toute l'espèce féminine en masse de passer sur la sellette devant un juge à longues oreilles. Le jeune homme reprit alors la parole. « Allons, dit-il, offrir un sacrifice au dieu Mars. Demandons-lui la vente de la jeune fille ainsi que des recrues. Mais, à ce que je puis voir, nous n'avons pas ici une seule bête à sacrifier, ni même assez de vin pour en boire à discrétion. Confiez-moi 10 de vos hommes. Il ne m'en faut pas plus pour tomber sur la première bourgade que je rencontrerai, et je vous rapporte de quoi faire un repas de salia. » Les voilà bientôt en campagne, tandis que le reste allume au logis un vaste brasier et construit en gazon un hôtel aux dieux de la guerre. L'expédition ne tarda pas à revenir avec une charge d'outres pleine de vin et chassant en avant un troupeau de bétail. On choisit un bouc, le plus vieux et le plus barbu qu'on put trouver, et on l'immola Mars, bon guide et bon compagnon. Un copieux festin s'apprête. « Vous allez voir, dit alors l'étranger, si je ne sais être votre chef qu'en fait d'expédition et de capture, et si j'y vais de main morte quand il s'agit de vos plaisirs. Et voici mon homme, aussitôt à la besogne, et qui la dépêche avec une aisance merveilleuse. En moins de rien, on voit le sol balayé et jonché, les mets rôtis ou fricassés de bas de maître, dressés avec goût et servis à point. Mais surtout, il a soin de multiplier les rasades et d'abreuver son mont de larges bancs. Tout en allant et venant, sous prétexte de vaquer au service, il visitait fréquemment la jeune fille et lui glissait à la dérobée quelques bribes de festin, où, d'un œil brillant de plaisir, il lui offrait à boire dans une coupe où ses lèvres avaient d'abord trempé. Toutes ces prévenances étaient accueillies d'un air passionné. Une bouche caressante allait au-devant du baiser qui lui était destiné et le rendait avec usure. « Ces privautés me déplaisaient fort. « Oh, jeune fille, disais-je, as-tu donc oublié la foi promise et cette ardeur mutuelle ? À ce mari que je ne connais point mais qu'ont choisi tes parents, peux-tu préférer un coureur de grand chemin, un coupe-jarret ? Quoi ? Sans remords, foulant aux pieds tout sentiment, tu te prostitues ainsi de gaieté de cœur au milieu des lances et des épées. Et si le reste de la troupe avait le moindre soupçon de votre intelligence, Derechef en aurait recours au pauvre âne, au risque de ce qui peut lui revenir. Oh, mais c'est trop se jouer de ma peau. » Tandis qu'un sentiment d'indignation m'entraînait ainsi aux suppositions les plus injustes, quelques demi-mots, faciles à interpréter pour un âne aussi intelligent, m'eurent bientôt mis au fait. Je compris que le prétendu brigand Emus n'était autre que Triplolème, le propre fiancé de la jeune fille. En effet, de parole en parole, il finit par lui dire assez haut, sans plus s'inquiéter de ma présence que si j'eusse été défunt, « Courage, ma bien-aimée, charité, tes ennemis sous peu vont être en ton pouvoir. » Et il revenait toujours plus pressant vers ses convives, leur versant le vin coup sur coup, sans y mêler une goutte d'eau et après l'avoir fait tiédir. Déjà la tête leur tourne, et lui, toujours sur la réserve, ne cesse d'arroser leur ivresse. À vrai dire, j'eus quelques soupçons qu'il mêlait quelques drogues somnifères à la liqueur dont il les abreuvait. À la fin, depuis le premier jusqu'au dernier, tout se gisait ivre-mort à la disposition de qui voudrait s'en défaire. Alors, sans la moindre peine, mon homme se mit à les garrotter étroitement l'un après l'autre. Et quand ils furent tous accommodés à sa fantaisie, il plaça sa maîtresse sur mon dos et prit avec elle le chemin de la ville où il demeurait. À notre approche, toute la population se porta au dehors pour jouir de ce spectacle impatiemment attendu. Parents, alliés, clients, valets, serviteurs se précipitaient à l'envi. Le contentement est dans tous les yeux, la joie dans tous les cœurs. Le cortège était de tout sexe, de tout âge. Mais quelle vue aussi! Le triomphe d'une vierge par le secours d'un âne. Moi aussi, je voulus à ma manière contribuer à la représentation et bien constater la part que j'y prenais. Je dressai l'oreille, dilatai mes naseaux et me mis à braire intrépidement d'un ton à rivaliser avec le tonnerre. Voilà la jeune fille rendue à ses foyers et aux caresses des auteurs de ses jours. Télépolème aussitôt me fait tourner bride, avec grand remords de bête de somme, et suivi d'une multitude de ses concitoyens. Je ne demandais pas mieux. Pour un curieux, quelle occasion! On allait mettre la main sur tous ces brigands. Nous retrouvons nos captifs, dont les mouvements étaient enchaînés par l'ivresse, plus encore que par les liens. La caverne fut fouillée et vidée de tout ce qu'elle contenait. On nous chargea d'or, d'argent et d'objets précieux. Quant aux voleurs, ils furent les uns roulés, tout garrottés jusqu'au bord des précipices voisins, dont on leur fit faire le saut, les autres décapités sur place avec leurs propres épées. Après cette exécution, nous reprîmes en triomphe le chemin de la ville. On déposa au trésor public les richesses reprises, et l'hymen mit Ptépolème en possession légitime de sa conquête. De ce jour, la jeune mariée ne m'appela plus que son sauveur et ne cessa de montrer la sollicitude de la plus tendre pour mon bien-être. Le jour même de ses noces, ce fut elle qui fit remplir d'orge mon râtelier. Par son ordre, on me donna enfin la ration d'un chameau de Bactriane. Mais que je maudissais de grand cœur cette fautisse de ne m'avoir pas changé en chien plutôt qu'en âne, en voyant la jante canine du logis, moitié rapine, moitié largesse, s'empiffrer des reliefs d'un somptueux dîner. La jeune épouse n'eut pas plutôt donné une première nuit à l'amour que sa reconnaissance ne laissa plus de repos ni à mari ni à parents, qu'elle n'eût obtenu la promesse pour moi du traitement le plus honorable. Un conseil d'amis fut convoqué et gravement délibéra sur un moyen de me récompenser dignement. On fit la motion de me tenir clos sans rien faire et de m'engraisser d'orge choisi, de vesse et de févrole. Mais un autre opinant fit prévaloir son avis. Il voulait qu'on me laissât la liberté, que je pusse courir et folâtrer dans les prairies avec les chevaux. La monte des cavales par un étalon comme moi, devant donner pour produit à mes maîtres une race généreuse de mulets. En conséquence, l'intendant du haras fut mandé et l'on me remit à ses soins, avec recommandation sur recommandation. La joie me faisait courir en avant. Plus de fardeau, plus de corvée, la liberté m'était rendue. Le printemps commençait. Au milieu des prés fleuris, je ne pouvais manquer de rencontrer quelques roses. Je faisais en outre cette réflexion. Si l'âne est l'objet de tant de gratitude, que ne fera-t-on pas pour l'homme quand il aura repris sa véritable figure ? Mais une fois que cet agent m'eut emmené loin de la ville, il ne fut plus question pour moi de délices ni même de liberté. Sa femme, la plus avare, la plus méchante des créatures, débuta par me mettre sous le joug pour servir de moteur à un moulin. Me fustigeant sans relâche avec une branche encore garnie de ses feuilles, elle fabriquait aux dépens de ma peau le pain de sa famille et le sien. Et c'était peu de fournir par mes sueurs à sa subsistance. Il me fallait moudre encore pour les voisins dont elle recevait le blé moyennant salaire. Et après tout ce labeur, je le pouvais, pauvre animal, compter même sur la pitance de droit. Ma portion d'orge passait avec le reste du grain sous la meule. Et quand, toujours tournant, je m'étais bien fatigué à la moudre ébluter, la voleuse vendait le tout en détail aux paysans du voisinage. Seulement, après m'avoir imposé cette pénible occupation toute une journée, vers le soir, elle me gratifiait d'une mesure de son non criblé, plein d'ordures et de pierres qui me restaient au gosier. Telles étaient les misères de ma condition quand l'impitoyable fortune me fit changer de supplice, sans doute afin que la mesure fût comble et que je fusse, comme on dit, glorifié au dehors comme au dedans. À la fin, le brave intendant s'avisa, quoique un peu tard, d'exécuter l'ordre de ses maîtres et me donna la clé des champs au milieu du haras. « Voilà, maître Baudel, libre enfin, j'entrais pigné d'aise, et déjà je faisais mon choix des croupes les plus à mon gré parmi les cavales. Mais ce doux commencement faillit encore aboutir à une dernière catastrophe. Tous ces étalons bien repus et engraissés pour les luttes de Vénus étaient de véritables et de terribles rivaux dans mes amours. Quelle âme eût été de force à lutter contre eux. Alors les voilà qui s'avisent d'être jaloux, ne veulent pas souffrir de mes alliances adultères, et au mépris des lois de Jupiter hospitalier, s'acharnent avec fureur sur l'intrus usurpateur de leurs droits. L'un, élevant son large poitrail, droit de tête et roide d'encolure, me martèle avec ses pieds de devant. L'autre, tournant une croupe musculeuse et charnue, escarmouche de ses ruades contre moi. Un autre, avec ce hennissement qui n'annonce rien de bon, accourt l'oreille couchée et, montrant deux rangs de dents blanches et formidables, m'en déchire tout le corps impitoyablement. Je me rappelais alors certain roi de Thrace dont j'avais lu l'histoire et qui livrait ses hôtes à la rage dévorante de ses coursiers furieux. Singulière économie chez ce despote, qui, repaissant ses chevaux de chair humaine, trouvait là le moyen de ménager son orge. Ainsi, meurtri et lacéré par les assauts de ces maudits quadrupèdes, j'en étais à regretter le manège tournant du moulin. Mais la fortune, qui ne se lassait pas de me persécuter, me suscita un bien autre fléau. Il y avait du bois à aller chercher sur une montagne. On m'employa à ce transport en me donnant pour conducteur un jeune garçon, le pire gardement de la terre. C'était peu d'avoir à gravir péniblement jusqu'au sommet le plus rude des côtes, d'user jusqu'au vif la corde de mes pieds sur les souches et les cailloux dont ma route était hérissée. Il me fallait encore essuyer une grêle incessante de coups de bâton dont le drôle me labourait les chines et dont je ressentais la douleur jusqu'à la moelle des os. Il avait la méchanceté d'adresser les siens constamment à la cuisse droite, si bien que, frappant toujours à la même place, il avait fini par entamer le cuir. Puis le mâle était devenu d'écorchure plaie et de plaie trou et de trou fenêtre. Et cependant le bourreau ne cessait de frapper sur la déchirure toute saignante. Ajoutez qu'il exagérait ma charge à faire croire que cette masse de fagots était destinée non pas à un âne mais à un éléphant. Un excès de poids faisait-il pencher la charge ? Au lieu de la diminuer de ce qui menaçait ruine et de me soulager d'autant, ou de faire passer du moins quelques morceaux de l'autre côté, il ajoutait des pierres pour rétablir l'équilibre. Ce n'est pas tout. Après m'avoir si impitoyablement écrasé sous le faîte, s'il arrivait que nous eussions un cours d'eau à traverser, l'enfant soigneux n'avait garde de mouiller ses guêtres. Il se campait sur mes reins de plein seau. Faible addition, me direz-vous, eu égard à l'énormité de la charge. Oui, mais si rencontrant à l'autre bord une rampe tant soit peu roide ou rendue glissante par le limon, je venais à m'abattre en essayant vainement de la franchir avec mon fardeau, croyez-vous que mon excellent guide prit la peine de me relever la tête avec la bride, de me soulever par la queue, ou enfin de soulager mon dos pour m'aider à me remettre sur pied? Non, je n'avais aucun secours à attendre. Mais armé d'un énorme bâton, il me rondinait de tête en queue, en commençant par les oreilles, tant et si bien qu'aucun cordial ne m'eût plus vite ranimé. Voici encore un de ces tours. Il se procura un jour des épines très piquantes à pointe vénéneuse qu'il tortilla en faisceau en forme de boule. Et il m'attacha à la queue cet appendice aiguillonnant que chaque pas mettait en mouvement pour mon supplice. Le mécanisme était à double fin, car dès que je prenais ma course pour échapper à mon persécuteur, cette allure accélérée redoublait l'énergie des piqûres. Et dès que je m'arrêtais pour faire trêve à mon tourment, le bâton me forçait à reprendre ma course. En somme, ce petit scélérat n'avait d'autre idée que de me faire périr de façon ou d'autre. Il me le jura plus d'une fois, et dans une circonstance, sa détestable malice alla encore plus loin. Un jour où la persécution avait triomphé de ma patience, je lui détachai une ruade des plus vigoureuses. Or, voici de quelle vengeance il alla s'aviser. Il me met sur le dos un fort paquet d'étoupes, solidement assujetti avec des ficelles, et me chasse devant lui. Puis il entre dans la première ferme, y dérobe un charbon qu'il fourre tout allumé au milieu de ma charge. Le feu couve quelque temps dans ce foyer combustible, et bientôt la flamme éclate et m'enveloppe tout entier du plus formidable incendie. Où fuir ? Quelle chance de salut ? Avec un tel ennemi à ses trousses, a-t-on le temps de la réflexion ? Dans cette extrémité, toutefois, la fortune daigna me sourire. Peut-être avait-elle pour moi d'autres épreuves en réserve. Du moins m'enleva-t-elle cette fois à une mort imminente et calculée de sang-froid. Il avait plu la veille dans les environs, il s'y était formé une mare fangeuse. La voir, y courir, m'y plonger tout entier, fut l'affaire d'un moment. Cette immersion éteignit le feu et me délivra de ma charge aussi bien que d'un affreux trépas. Mais, oh, l'effronté petit monstre, n'alla-t-il pas tourner son méfait contre moi? Il jura, ses grands dieux, à ses camarades de service, que passant près d'un feu que les voisins avaient allumé, je m'étais volontairement laissé choir, de manière à mettre ma charge en contact avec les charbons. Puis, éclatant de rire à mon nez, il ajouta: « Oh, on est bien bon de nourrir chez soi un pareil bout de feu !» Quelques jours ne se passèrent pas sans qu'il ourdît contre moi une machination bien autrement perfide. Il vendit le bois que je portais à la première chaumière qu'il rencontra, et me ramenant à vide, il se met à crier à qui veut l'entendre qu'il ne peut plus venir à bout d'un aussi méchant animal et qu'il renonce à un métier comme celui de me conduire. Or, voici quel tour il donnait à son accusation. Vous voyez, cette bête paresseuse, cette lâche bourrique, je ne parle pas de tous les cours qu'il me joue à moi, directement, mais apprenez un peu à quel danger il m'expose. D'aussi loin qu'il aperçoit femme bien tournée, fillette en âge ou jeune garçon, zeste, la charge de côté et quelquefois le bas. Et voilà ce galant de nouvelle façon qui s'attaque tout en rute à des créatures humaines, qui les renverse et qui, la gueule béante, essaye sur leur personne d'étranges et monstrueuses voluptés. Il vous prend une femme à revers et brutalement la sollicite en dépit de Vénus. Ce grotesque museau veut parodier les baisers, il barbouille, il blesse avec ses grandes dents. Les querelles vont nous pleuvoir et peut-être de bons procès. Qui sait, quelque action criminelle peut-être. Tout à l'heure, une jeune dame passait. En un clin d'œil, mon furieux jette son bois à bord et le disperse de tous côtés. Il se rue sur la pauvre femme, la roule dans la boue et veut, à bon discret, lui monter sur le corps en pleine rue. Par bonheur, quelques passants, accourus aux pleurs et aux cris de la victime, l'ont arraché aux étreintes du monstre, sans quoi cet effet de la malheureuse, elle était étouffée, écartelée, elle périssait d'une mort affreuse, et nous restions sous le poids d'une affaire capitale. Cette insigne calomnie, assaisonnée d'autres propos du même genre, que mon pudique silence se rendait plus accablant, excita au plus haut degré l'animadversion de ces bonnes gens contre moi. L'un d'eux finit par s'écrouiller. « Mais qu'est-ce à dire, aurons-nous ici un mari de toutes nos femmes, un adultère banal, qu'on lui molle bien vite en expiation de ses monstrueux amours. Allons, mon garçon, coupe-lui le cou sur le champ. Jette ses entrailles aux chiens, le reste de sa chair servira à nourrir nos ouvriers. Quant à sa peau, nous la rapporterons à nos maîtres. Nous saurons bien mettre sa mort sur le compte des loups. » Aussitôt, mon pernicieux accusateur, ravi d'être l'exécuteur de la sentence, fait ses expositions d'un air de triomphe insultant. Il n'a pas oublié cette roide, hélas, de trop peu d'effet, et il se presse déjà de donner le fil à son couteau en l'aiguisant sur la pierre. Mais un membre de la rustique assemblée prend alors la parole. Il y aurait conscience, dit-il, de mettre à mort un si bel âne et de nous priver de ses services pour quelques escapades amoureuses. Pourquoi ne pas le châtrer de préférence? Le tempérament cesserait alors de lui parler si haut et dès lors plus de ses fâcheuses conséquences. Ajoutez qu'il y gagnera d'encolure. En chaleur, l'âne est plus mou et le cheval plus fringant. J'en ai vu plus d'un devenir tout à fait rétif et intraitable. Eh bien, en un tour de main, on vous le rendait habile aux transports à dos et docile à toute espèce de service. À moins de résolution contraire de votre part, je me charge de l'opération. Laissez-moi seulement le temps de faire un tour à la foire voisine. Je reviens chez moi reprendre mes instruments. Je vous taille ensuite cet incommode amoureux quelque part entre les cuisses et vous le rends doux comme un agneau. Cette proposition m'arrachait au royaume de l'Orcus, mais pour me faire subir le plus dur des traitements. Et je me lamentais de périr dans la plus noble partie de moi-même. Déjà, je cherchais quelque moyen de destruction, la faim ou quelque précipice. C'était encore mourir, mais du moins, c'était mourir entier. Pendant que je délibérais sur le choix d'un trépas, mon bourreau d'enfant va me prendre pour notre voyage quotidien à la montagne. Là, m'ayant attaché à la branche pendante d'un gros chêne, il se met, quelques pas en avant, à tailler avec sa hache le bois qu'il devait rapporter, quand d'une caverne voisine s'allonge soudain une formidable tête d'ours. Je n'eus pas plutôt vu l'animal s'avancer d'un pas lent, qu'épouvanté de cette apparition, je me rejette de tout mon poids sur mes jarrets de derrière et romps en me cabrant la courroie qui me retenait. Alors je me mets à dévaler ventre à terre, galopant, culbutant à travers les pentes les plus rapides. Je fus bien vite en bas de la montée, également empressé d'échapper aux griffes de l'ours et à celles de l'enfant qui ne valait pas mieux. Un passant qui me vit sans maître s'empara de moi, et m'ayant enfourché lestement, me fit prendre à coups de bâton un chemin de traverse qui m'était inconnu. Je n'avais garde toutefois de mettre obstacle à sa marche, car elle m'éloignait du lieu fatal où devait se consommer le sacrifice de ma masculinité. Du reste, je n'étais pas grandement sensible au coup de mon nouveau propriétaire, tant j'avais su faire connaissance avec le bâton. Mais l'acharnement de la fortune fit tourner tout à coup cette chance d'évasion si favorable. Elle me gardait encore un de ses tours. Les pâtres du logis avaient perdu une génisse et couraient la campagne en tous sens pour la retrouver. Le hasard fit que nous nous rencontrâmes face à face. Ils m'eurent bientôt reconnu, et saisissant mon ligou, ils s'efforcent de m'emmener. Mon cavalier, hardi et vigoureux compagnon, leur opposait une vive résistance, tout en prenant ciel et terre à témoin. Et d'où vient cette agression? Pourquoi cette violence? Qu'est-ce à dire? Répondaient mes gens. Attends! Nous allons te faire des politesses quand nous te surprenons volant notre âne. Tu ferais mieux de nous dire ce que tu as fait de l'enfant qui le conduisait et que tu as tué, sans doute, et caché quelque part. Et là-dessus, après l'avoir désarçonné, il le renverse et la cape de coups de pied et de poing. Le malheureux, tout meurtri, mais jurait ses grands dieux qu'il n'avait vu âme qui vive, et que trouvant l'âne sans cavalier, sans guide, il l'avait arrêté dans sa course uniquement pour le rendre acquis de droit dans l'espoir d'une récompense. « Plutôt Dieu, s'écria-t-il, que cet âne que je me serais bien passé de rencontrer eut lui-même le don de la parole. Il attesterait mon innocence, et vous auriez regret du traitement que vous me faites essuyer. » Mais il eut beau protester, ces brutaux lui mirent une corde au cou et nous ramenèrent ensemble vers cette montagne boisée où l'enfant avait coutume d'aller chercher des fagots. Du reste, les recherches qu'on fit de sa personne n'aboutirent qu'à retrouver pièce à pièce les lambeaux dispersés de son corps. Pour moi, il était hors de doute que c'étaient les dents de l'ours qui avaient fait cette besogne. Et j'aurais dit ce que j'en savais, si parler eût été possible. Mais je me félicitais intérieurement, c'était tout ce que je pouvais faire, de ce que bien qu'un peu tard, l'heure de la vengeance eût enfin sonné. Quand les divers lambeaux du cadavre eurent été réunis et rajustés à grand-peine, on l'enterra sur les lieux mêmes. Pour mon Bellérophon, voleur convaincu, meurtrier présumé, il fut conduit au logis garrotté de la bonne manière. Leur intention était de le livrer le lendemain au magistrat, qui saurait bien, disait-il, en obtenir raison. Cependant, le père et la mère du jeune garçon en étaient à sangloter, à se lamenter, quand, fidèle à sa promesse, arrive l'homme à l'opération, insistant pour qu'il y fût précédé sans plus attendre. Mais l'un d'eux lui dit « Oh, nous avons aujourd'hui bien autre chose qui nous occupe. Demain, soit, mais que l'on coupe à cet âne maudit les génitoires et la tête par-dessus le marché. Nous ne demandons pas mieux, et chacun ici vous prêtera la main. » Mon supplice fut donc ainsi renvoyé au lendemain, et j'en adressai des actions de grâce à l'honnête garçon, qui, du moins par sa mort, retardait ne fût-ce que d'un jour ma dissection. Mais on ne me laissa pas même jouir en paix de ce court ajournement, car la mère, au désespoir du funeste trépas de son fils, la mère, gémissante et éplorée, vêtue de deuil et arrachant à deux mains ses cheveux blancs couverts de cendres, se précipite vers mon écurie, et se meurtrissant le sein avec violence, elle m'apostrophe en ces mots. « Ce glouton se dorlote ici dans sa litière, et le voilà qui s'empiffre à pleine mangeoire et jusqu'à en crever. Il se soucie bien de ma misère et de la catastrophe de son jeune maître. Sans doute il compte sur mes infirmités, sur ma vieillesse pour échapper au châtiment qui lui est dû. On dirait à le voir que c'est l'innocence même. Oh, c'est tout simple, le crime compte toujours sur l'impunité, en dépit de la conscience. Mais au nom de tous les dieux, exécrable bête, à quel niais feras-tu croire que tu ne sois pour rien dans cette horrible catastrophe? Ne pouvais-tu protéger ce malheureux enfant par tes ruades, écarter l'ennemi par tes morsures? Toi, si prompt à lever la croupe contre lui, que ne prendrais-tu aussi dispos pour te défendre? Du moins, pouvais-tu le prendre sur ton dos et l'enlever à des mains sanguinaires? Tu n'aurais pas fui seul en désertant ton compagnon, ton guide, ton maître. Ne sais-tu pas bien que ce qui dédie son secours à un mourant outrage la morale et encourt la vindicte publique? Infâme assassin, tu n'auras pas longtemps à te réjouir de mon malheur. Tu vas sentir quelle force peut donner la nature au bras d'une mère au désespoir. Elle dit, et dénouant sa ceinture, elle m'attache les pieds deux à deux, en serrant de toutes ses forces afin de paralyser en moi la résistance. Puis saisissant la barre qui fermait les tables, elle m'en frappe à coups redoublés jusqu'à ce que ses forces la trahissent et que l'instrument du supplice échappe à ses mains par son propre poids. Déplorant alors la faiblesse de son bras qui se lasse si vite, elle court à son foyer, en rapporte un tison ardent qu'elle me fourre entre les cuisses. Je recours alors au seul moyen de défense qui me resta. Je dardai au visage et aux yeux de cette mégère certaines déjections liquides qui la mit en fuite, aveuglée et presque asphyxiée. Il était temps. Sans cette ressource extrême, je périssais, mêlé à Agrebaudet, victime de cette nouvelle haletée.